VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, John Lyndon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mercredi 4 mai 2016. Au sommaire ce matin.
Au Tchad, présidentiel Idriss Déby Itno déclaré vainqueur avec 59,92% des voix. Le Conseil constitutionnel a rendu public les résultats définitifs très tôt ce matin.
Au Sénégal, le festival de jazz de Saint-Louis n'aura pas lieu cette année, une première depuis plus de 25 ans.
En RDC, Papa Wemba entame son dernier voyage. L'artiste aux multiples facettes sera enterré ce mercredi à Kinshasa.
Philippi, un homme complet, artiste de pointe, musicien, cinéaste, entraîneur de l'équipe de Juventus, donc il était tout, et musicien aussi, et sa père.
Course à la Maison-Blanche, le match Donald Trump-Hillary Clinton se précise. Le candidat républicain a remporté hier la primaire à l'Indiana face à Ted Cruz qui a jeté l'éponge alors que côté démocrate, Bernie Sanders a devancé Hillary Clinton dans le même état.
On a assisté à quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire politique moderne des États-Unis. C'est une campagne tout à fait atypique et je pense que l'élection générale pourrait être également assez atypique.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Une fois encore, bonjour. En République démocratique du Congo, 3 employés de la Croix-Rouge internationale ont été enlevés hier par des hommes armés non identifiés dans l'est de la République démocratique du Congo, donc, rapporte l'organisation. Les 3 personnes enlevées sont de nationalité congolaise. L'armée dans le nord Kivu a dit ne pas avoir des détails sur cet enlèvement, ajoutant qu'elle invite qu'elle invite toujours les humanitaires à contacter l'état-major avant de se rendre dans les zones où opèrent encore des milices.
Le syndicat des journalistes en Égypte a dénoncé mardi un recul de la liberté de la presse dans le pays, accusant le pouvoir d'être en guerre contre le journalisme. 2 jours après l'arrestation de 2 reporters au siège de l'organisation, le président Abdel Fattah al-Sissi est régulièrement accusé par les défenseurs des droits de l'homme d'avoir instauré un régime ultra-autoritaire qui réprime violemment toute opposition depuis qu'il a destitué en 2013 son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a rendu public les résultats définitifs de l'élection présidentielle hier au sein de la dite institution. Il confirme la victoire du président Déby dès le premier tour avec 59,92% devant Salé qui totalise 12,77% avec un taux de participation de 65,95%, et ce, en dépit de la requête introduite par l'opposition pour exiger l'annulation de cette élection. Le point avec André Kodmadjingar.
2 semaines après le résultat provisoire publié par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, résultat contesté par 6 candidats de l'opposition, le Conseil constitutionnel rejette en bloc la requête introduite par ces derniers demandant l'annulation de ce scrutin pour une question de forme et confirme la victoire du président sortant au premier tour.
Idriss Déby Itno, 2,219,352 voix, 59,92%. Kevzabo Salé, 473,074 voix, soit 12,77%. Déclare le candidat Idriss Déby Itno élu au premier tour président de la République du Tchad.
André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Là. Au Sénégal, le préfet de Saint-Louis a interdit la tenue de l'édition 2016 du festival de jazz organisé depuis 25 ans dans cette ville du nord-ouest du Sénégal en évoquant des raisons de sécurité. Mais les organisateurs ont affirmé mardi être en discussion pour son maintien à 8 jours seulement de son ouverture. Des attentats djihadistes ont frappé ces derniers mois plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, jusqu'à présent épargné, a cependant renforcé la sécurité dans de nombreux lieux publics, comme les hôtels et les administrations. Si les autorités maintiennent l'interdiction du festival, ce serait la première fois et ce serait un coup dur pour l'économie locale.
Après les officiels lundi, les fanatiques et sympathisants ont rendu hier un hommage à l'artiste et musicien Papa Wemba. Sous les averses, des milliers de personnes se sont inclinées devant la dépouille mortelle de l'artiste qu'ils ont adulé pendant plus de 4 décennies. Reportage de Cyril Milandou de Top FM, de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
à Bruxelles, référence à Sagui Charoufa.
Des longues files d'attente ont été aperçues pour rendre les derniers hommages à Papa Wemba. Des sapeurs ont exhibé leur collection d'habits. Une forte délégation des sapeurs venus de Brazzaville a honoré les rois de la rumba congolaise. Pour Maxime Pivot Mabanza, Papa Wemba était le Moïse de la SAP.
Ce que je veux retenir de Papa Wemba, moi, en tant que Maxime Pivot, ambassadeur des sapeurs congolais, je l'appelais le Moïse de la SAP parce que c'est lui qui a pérennisé la SAP ici en RDC.
Des femmes de la SAP n'ont pas voulu manquer cette occasion. Fais la référence, dit accompagner les hommes parce que c'est la même culture.
On accompagnait les hommes à Kinshasa parce que bon, ça c'est notre culture quoi. La sapologie c'est la culture. Habiller bien, être bien parmi les hommes, donc c'est ça. Je sais que la SAP c'est la SAP. Le 8 mars c'est journée de la femme. Papa Wemba était avec nous. Aujourd'hui là ça fait seulement un mois et deux semaines que papa est parti. Donc nous sommes obligés de venir ici là, les femmes comme les hommes.
Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la Voix Afrique.
L'enterrement de l'artiste musicien Papa Wemba, décédé à la suite d'un malaise en plein concert à Abidjan en Côte d'Ivoire, est prévu ce mercredi à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les efforts diplomatiques pour tenter de rétablir le cessez-le-feu en Syrie s'intensifient ce mercredi avec des discussions à Berlin impliquant l'Allemagne, la France, l'ONU et l'opposition syrienne, puis une réunion du Conseil de sécurité à New York. Moscou a déclaré espérer un cessez-le-feu dans les prochaines heures à Alep, la grande ville divisée du nord de la Syrie où de nombreux combats et bombardements ont fait hier une trentaine de morts. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry a menacé le président syrien Bachar al-Assad de répercuter si Damas ne respectait pas le nouveau cessez-le-feu actuellement discuté entre Washington et Moscou, qui concerne notamment la ville d'Alep.
Le président Barack Obama se rend aujourd'hui dans la ville de Flint, dans le Michigan, théâtre d'un scandale de contamination d'eau qui a déjà entraîné la mise en accusation de trois responsables gouvernementaux. Gabi Dorsil nous en dit plus.
Pour les habitants de Flint, cette visite est une nouvelle occasion, et non des moindres, d'exposer au monde extérieur leur crise. La présence de Barack Obama remettra en effet au devant de la scène un cauchemar qu'ils endurent depuis déjà 2 ans. C'est l'impression partagée d'ailleurs avec la chaîne NBC par ses résidents qui ont été directement affectés par la contamination au plomb du système de distribution d'eau potable dans la ville. Le 20 janvier, le président américain était dans le Michigan, mais il avait opté pour une visite ultérieure à Flint, alors en crise et en plein débat politique suite à l'éclatement du scandale. Le prétexte, cette semaine, c'est une lettre adressée au chef de l'État par une fillette de 8 ans, à Mariana Copeny, où elle a demandé au président de le rencontrer. M. Obama doit s'arrêter dans un centre de dons alimentaires, prendre part à une table ronde sur la crise, rencontrer le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, et le maire de Flint, Karen Weaver. Selon la Maison-Blanche, il prendra aussi la parole devant un groupe d'environ 1000 personnes dans un lycée de la ville.
Course à la Maison-Blanche, Donald Trump a remporté hier une victoire majeure à la primaire républicaine de l'Indiana et renvoyé son rival Ted Cruz dans les cordes, se rapprochant à marche forcée de l'investiture pour la présidentielle de novembre. Les détails avec Georges Léonard Sagnot.
Les chaînes américaines ont donné Donald Trump vainqueur dès la fermeture des bureaux de vote. Ted Cruz, le menteur, a toujours dit qu'il gagnerait et devait gagner l'Indiana. S'il perd, il doit se retirer et arrêter de gaspiller de l'argent et du temps, avait écrit Donald Trump sur Twitter. Un message bien saisi par Ted Cruz qui finalement a décidé de jeter l'éponge.
I've said that I would continue on as long as there was a viable path to victory. Tonight, I'm sorry to say, that path
depuis le début, j'ai dit que je continuerai aussi longtemps qu'il y aura une voie vers la victoire. Ce soir, je suis désolé de le dire, nous suspendons notre campagne.
Donald Trump n'a pas encore atteint la majorité des 1237 délégués requise pour décrocher l'investiture de façon automatique, mais la probabilité qu'il y parvienne d'ici aux dernières primaires du 7 juin a fortement augmenté. Dans son adresse, le magnat de l'immobilier a tenu à rappeler qu'il a passé toute sa vie à compétir.
Toute ma vie, j'ai été en compétition, différentes compétitions, qu'il s'agisse de sport ou des affaires, ou comme maintenant depuis 10 mois, la politique.
Chez les démocrates, Bernie Sanders a remporté la primaire de l'Indiana devant Hillary Clinton, qui se prépare cependant au probable match contre Donald Trump à la présidentielle de novembre prochain.
Nous reviendrons sur ces élections dans la page magazine.
Et puis le général américain Curtis Scaparati prend aujourd'hui le commandement des troupes de l'OTAN en Europe, où l'Alliance a entamé un renforcement militaire sans précédent sur fond de regain de tensions avec la Russie et déployé des navires pour stopper les passages de migrants en mer Égée. Le général Scaparati, qui, après avoir servi en Afghanistan, dirigeait jusqu'ici les troupes américaines en Corée du Sud, devient le 18e commandant suprême des forces de l'Alliance Atlantique, un poste stratégique inauguré en 1951 par le général américain Dwight Eisenhower.
La Banque centrale européenne doit décider aujourd'hui du sort du billet de 500 euros accusé de faire le jeu des trafiquants de tout poil, mais dont la probable disparition suscite l'ire de certains pays, dont l'Allemagne. Sauf surprise, l'institution monétaire devrait décider de mettre un terme à toute nouvelle émission de cette coupure accusée de permettre de transporter discrètement d'énormes montants et de faciliter ainsi la circulation d'argent sale, la corruption et le financement d'activités illégales.
Le procureur général du Brésil a demandé l'ouverture d'une enquête sur la présidente brésilienne Dilma Rousseff pour obstruction à la justice, ont annoncé mardi les principaux médias nationaux. La requête adressée à la Cour suprême concerne non seulement Mme Rousseff, mais aussi son prédécesseur et mentor, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Il s'agit d'un nouveau développement dans la grave crise politique que connaît le Brésil, avec la menace des destitutions qui pèse sur Mme Rousseff.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Au Nigeria, le vice-président a dévoilé un scandale de corruption de plus de 13 milliards de dollars. Yemi Osinbajo a indexé le régime sortant de Goodluck Jonathan pour des contrats d'armement frauduleux. Son ancien conseiller à la sécurité, Sambo Dasuki, déjà sous les verrous, est en attente de son jugement. Entre 2006 et 2013, 55 personnes seulement avaient détourné pas moins de 6,7 milliards de dollars de fonds publics, selon les propos du ministre de l'Information. En Côte d'Ivoire, les associations de consommateurs ont accueilli avec satisfaction la décision du président Ouattara de mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau. Mais l'Union fédérale des consommateurs, qui regroupe 125 associations, attend surtout la mise en œuvre de la mesure. L'Union fédérale s'inquiète toutefois du passage d'un monopole public à un monopole privé. Une vraie concurrence aiderait aux contribuables de choisir le moins disant. Et selon une étude de l'ONG Transparency International, dénoncer la corruption en Tunisie pourrait créer des représailles en l'absence notamment de protection des sources. En effet, plus de deux tiers des Tunisiens jugent que la corruption a augmenté dans leur pays au cours de l'année écoulée. Parallèlement, 60% des Tunisiens considèrent que les efforts du gouvernement ne sont pas suffisants 5 ans après une révolution largement motivée par le chômage, la misère, mais aussi une corruption endémique.
Merci Eric. Et bien sûr, cette musique annonce le sport et Eric est resté avec nous. Eric, bonjour. Élimination du Bayern de Munich hier soir en Champions League en Europe.
Exactement, l'Atlético Madrid s'est qualifié pour sa 3e finale de Ligue des Champions aux dépens du Bayern. En dépit de sa défaite 2-1 hier à l'Allianz Arena en demi-finale retour à l'aller, l'Atlético l'avait emporté 1-0, c'était en Espagne.
Dopage, l'AMA suspend l'accréditation du laboratoire sud-africain de Bloemfontein.
L'agence mondiale antidopage AMA a suspendu ce mardi pour 5 mois l'accréditation du laboratoire national antidopage sud-africain de Bloemfontein parce qu'il ne satisfait pas aux exigences de qualité pour l'analyse des contrôles. Au cours de cette suspension prononcée jusqu'au 30 septembre, les échantillons doivent être acheminés avec toutes les règles de sécurité vers un laboratoire dûment accrédité par l'AMA. Le laboratoire antidopage sud-africain de Bloemfontein a 21 jours pour faire appel de cette décision.
La flamme olympique des JO de Rio est arrivée au Brésil.
La flamme olympique est arrivée en avion à Brasilia mardi matin en provenance de Genève. Première étape d'un parcours dans tout le Brésil jusqu'à la cérémonie d'ouverture des JO 2016 de Rio de Janeiro début août. La torche passera dans plus de 300 villes et sera portée par quelques 12 000 relayeurs avant d'arriver le 5 août au mythique stade de Maracana pour le coup d'envoi des premiers JO d'Amérique du Sud.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
John Lydon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour et on commence ce matin par les États-Unis. Les États-Unis où Donald Trump est devenu hier le candidat probable du parti républicain à l'élection présidentielle américaine de novembre après sa victoire spectaculaire à la primaire de l'Indiana et l'abandon de son principal rival, le sénateur du Texas, Ted Cruz. Le président du parti républicain a immédiatement appelé au rassemblement autour de Donald Trump, le qualifiant de candidat présumé. Pour parler de tout cela, nous nous sommes entretenus avec René Leck, directeur de publication du site CNEPlus.com, démocrate et surtout quelqu'un qui suit de très près la politique américaine.
La victoire évidente, anticipée au moins, en tout cas, de Donald Trump pour la nomination au niveau du Parti républicain. Un, il a gagné très largement en Indiana, alors qu'on pensait que ce serait relativement serré et que John Kasich et Ted Cruz avaient créé une stratégie qui était telle que Ted Cruz devait mettre le paquet sur Indiana. Il a été battu. Il a décidé d'abandonner la course. C'est clair, Donald Trump sera le candidat des républicains pour les élections générales.
Est-ce qu'on s'attendait à ce que Ted Cruz lâche si facilement
J'avoue que sincèrement, pour tout vous dire, j'ai été surpris. Parce que mathématiquement, il n'était pas possible à Ted Cruz de l'emporter à la Convention des Républicains. Le calcul qu'il faisait, ainsi que John Kasich, c'était d'empêcher d'avoir le chiffre magique de 1237 délégués à Donald Trump. C'était ça sa stratégie. Donc j'avoue que j'ai été un peu surpris qu'il ait décidé d'abandonner aussi facilement, entre guillemets.
Côté démocrate, on a aussi noté la victoire de Bernie Sanders. Comment expliquer cela.
Oui, la victoire de Bernie Sanders, bon, on s'y attendait un peu. À un moment, les sondages, c'est vrai, étaient favorables à une période à Hillary Clinton. Bernie Sanders l'a rattrapé dans les sondages, donc on pense que ça allait un peu serrer. Mais écoutez, en dernier ressort, ce n'est pas essentiel. Il est clair et net que Hillary Clinton arrivera en tête du nombre, ce qu'on appelle les pledge delegates, les délégués qui se sont engagés vis-à-vis d'un candidat, et avec ce qu'on appelle les super délégués, qui sont en fait les responsables du Parti démocrate, elle n'aura aucune difficulté à emporter la nomination chez les démocrates.
Alors, ça devient évident qu'on va assister à un match Trump-Hillary. Comment envisagez-vous cela?
Trump-Clinton, ça va être particulier. Comme nous l'ont montré les primaires, on a assisté à quelque chose de tout à fait nouveau hein, dans l'histoire politique moderne des États-Unis. C'est une campagne tout à fait atypique et je pense que l'élection générale pourrait être également assez atypique avec un Donald Trump qui est un populiste, un démagogue qui utilise un langage parfois ordurier hein, pour parler très simplement et très directement. Face à une femme, je serais intéressé de voir comment il va ajuster son langage, parce que s'il a un langage un peu trop trivial comme il l'a eu jusque-là, ça pourrait se retourner violemment contre lui. Donc je pense, comme c'est quand même un homme intelligent, qu'il va ajuster un peu son discours, mais ça va être une campagne quand même assez serrée. Bon, mais personnellement, je l'ai déjà dit sur vos ondes, je suis particulièrement favorable à la candidature d'Hillary Clinton et j'ai du mal à pouvoir imaginer qu'elle ne gagne pas largement en novembre.
Les États-Unis, vous pensez, sont un pays prêt à avoir une femme comme présidente?
Oui, je pense que l'élection de Barack Obama était autrement plus radicale que l'élection d'une femme à la présidence de la République aux États-Unis. Si l'Amérique a élu Barack Hussein Obama comme président de la République en 2008, l'a réélu après encore en 2012, je pense que l'Amérique est tout à fait prête à avoir non seulement une femme, mais en plus de ça, pas n'importe quelle femme. Hein. La politique moderne, en tout cas de mon vivant, je ne pense pas qu'il y ait eu un candidat ou une candidate à l'élection américaine qui soit aussi qualifiée, aussi bien préparée que Hillary Clinton.
René Leck, directeur de publication du site CNEPlus.com. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz en visite à Nema, une ville située à plus de 1000 km de Nouakchott, a annoncé dans un meeting populaire l'organisation très prochaine d'un référendum constitutionnel, un référendum qui portera sur la suppression du Sénat et la mise en place de conseils régionaux. Pourquoi cette révision constitutionnelle? Comment l'opposition a-t-elle réagi? Les explications de Brahim Dia, notre correspondant en Mauritanie.
Le Parlement mauritanien est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette seconde chambre compte 56 sénateurs. Pour le chef de l'État, elle retarde le processus de vote des lois. Cette justification de la suppression du Sénat ne convainc guère une partie de l'opposition. Mahfoud Oulbetta est le président du pôle politique du Forum national pour la démocratie et l'unité, FNDU, un forum qui regroupe une quinzaine de partis. Il reconnaît le peu d'utilité du Sénat, mais rejette la justification donnée par le président de la République.
Contrairement à ce que a dit l'actuel chef de l'État, il a justifié la suppression du Sénat par un retard dans l'adoption des textes. Or, il n'y a jamais eu de retard en ce qui concerne le Sénat. Il a été toujours extrêmement prompt à adopter les projets qui lui sont soumis.
Derrière cette volonté de suppression du Sénat, le FNDI perçoit d'autres motivations. Mahfouz Oulbetta.
C'est une initiative qui rentre dans le cadre de l'agenda de l'actuel détenteur du pouvoir, qui envisage donc de garder le pouvoir d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre.
Mohamed Ould Abdelaziz a été en effet élu président de la République en 2009 pour un mandat de 5 ans. En 2014, il a été réélu. La Constitution lui interdit de briguer un autre mandat. Mais récemment, trois de ses ministres ont publiquement émis l'idée d'une réforme constitutionnelle visant le déverrouillage de la limitation du nombre de mandats présidentiels. En réaction aux déclarations de ses ministres, le FNDU a rompu tout contact avec le pouvoir. Pour renouer le dialogue avec le régime, les partis du forum ont exigé du chef de l'État une déclaration claire sur sa volonté de respecter les dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats à deux. Cette exigence a-t-elle été satisfaite dans le discours de Mohamed Ould Abdelaziz à Nema? Réponse de Mahfoud Oulbetta.
Il est resté dans le flou total en disant que lui, il va approfondir la démocratie. Mais c'est une démocratie qu'il conçoit lui-même comme étant nécessairement le lieu de son maintien au pouvoir et de la perpétuation de l'actuel pouvoir en place.
Dans l'opinion publique, l'annonce de la suppression du Sénat a été plutôt bien accueillie. Cette chambre est en effet jugée coûteuse et inutile par beaucoup de Mauritaniens. Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Direction à présent le Mali, plus précisément à Gao, où l'eau de boisson devient une denrée rare. Résultat, les populations crient au secours et demandent une aide d'urgence. Suivons ce reportage de Boubacar Touré à Gao.
En cette période de grande chaleur où le mercure affiche souvent 47 degrés, l'eau de boisson devient une denrée rare pour les habitants de la ville.
J'ai remarqué cette année que la crise d'eau s'est beaucoup accentuée ici à Gao. Les robinets beaucoup manquent d'eau. Les enfants ont des problèmes, les parents ont des problèmes, les ménagères n'en parlent plus. Parce que quand l'eau manque, c'est surtout la ménagère qui souffre.
À l'école de Sosokoira, pour des problèmes d'eau, le directeur se voit dans l'obligation de libérer ses élèves plutôt que prévu. Yakuba Meiga, directeur de l'école fondamentale de Sosokoira.
11h, on ne peut plus les tenir dans les classes parce qu'il n'y a pas d'eau. Dans la cour, il y a des robinets, mais il n'y a pas d'eau le jour, il n'y en a pas. On ne voit même pas des traces d'eau. Non, c'est la vie, s'il n'y a pas d'eau, là, on ne vit pas.
Le vieux Younoussa Touré habite à Sané. Il passe ses nuits dans un fauteuil attendant que le robinet puisse couler.
Là où nous on est, on ne peut pas dormir la nuit. On va passer toute la nuit à attendre de l'eau jusqu'à 4h, 5h du matin. Même un goutte de l'eau, on ne peut pas l'avoir. Là où on est souffre. On ne peut pas. Comment on va faire maintenant pour avoir de l'eau? Parce qu'on a nos enfants, on a nos femmes, on est fatigués. Les enfants sont fatigués et ils ont tous des élèves qui vont à l'école aussi. Comment on va faire pour les faire les petits déjeuners pour aller à l'école? Comment on va faire pour les enfants là pour laver et d'aller à l'école? Donc vraiment, le gouvernement Mali n'a qu'à voir tout ce qu'il va faire les moins pour nous aider.
Il est 11h du matin, sous une canicule insupportable, des femmes et des enfants se bousculent à la fontaine de Tchamboukona, un quartier de la périphérie. Aïssata Nouhou, son enfant dans le dos, nous parle de ses difficultés pour avoir de l'eau.
Nous avons vraiment des difficultés. Vous voyez, depuis ce matin, je suis là. Je ne suis pas encore servie. Nous sommes vraiment fatigués. Bientôt, c'est le ramadan. si le problème d'eau n'est pas réglé à Gao, je ne sais pas ce qu'on va faire.
Pour les responsables de la société en charge de la production et de la distribution de l'eau, la structure n'est pas en mesure de satisfaire les populations car la demande dépasse fortement la production avec des installations qui datent de plus de 34 ans, donc ne répondant plus à la réalité du moment. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Comment imposer le Made in Guinée? C'est le défi des autorités gouvernementales qui misent donc désormais sur la formation. La Guinée s'engage pour ainsi dire à professionnaliser sa main-d'œuvre à travers la construction d'infrastructures de formation. Le pays veut surtout rattraper son retard. Correspondance de Zakaria Camara.
Le Made in Guinée a du mal à convaincre le consommateur local. Certains Guinéens se défendent en pointant un doigt sur le manque de techniques et de technologies, d'autres parlent du faible niveau de formation. L'artisanat, par exemple, est l'un des métiers qui séduit moins ici à Conakry.
Vous n'êtes pas scolarisé, vous ne pouvez pas aller loin. C'est un peu l'artisanat guinéen, toujours sur le plan en un mot traditionnel.
L'artisanat guinéen a chuté depuis le premier régime de la Guinée, ça n'avance pas.
Moi, je pense que l'artisanat en Guinée, c'est un domaine qui est vraiment laissé pour compte.
On peut tout faire. De l'habillement à la chaussure, au lit, au salon, avec notre propre Made in Guinée. Mais cette culture a besoin d'être subventionnée, a besoin d'être soutenue et puis a besoin de faire la promotion, d'être promue. Il faut vulgariser.
Une seule école des arts et métiers existe en Guinée, un vide que le gouvernement guinéen compte combler par la construction des écoles régionales. Un accord signé avec le Fonds saoudien de développement va permettre à la Guinée de se doter prochainement de 4 écoles. Yalamo PTA, chef de service infrastructure au ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle.
On s'est dit, pourquoi ne pas former les Guinéens sur place? L'enseignement technique s'est lancé dans cette perspective-là et a fait des requêtes pour la construction des écoles professionnelles en Guinée auprès de plusieurs bailleurs.
Les 4 écoles régionales sont en construction. 2 nouvelles devront être réalisées à Conakry grâce à un financement de la Banque islamique de développement. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Et nous passons maintenant à notre dossier sur la piraterie. Si le phénomène est en baisse à l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas de l'Afrique de l'Ouest, où le Bureau maritime observe au contraire une augmentation. Morgane Guiriec.
L'Afrique de l'Ouest abrite les eaux les plus dangereuses du monde. Les statistiques du Bureau maritime international, publiées la semaine dernière, indiquent qu'au cours du premier trimestre 2015, 2 détournements de navires sur 3 se sont produits dans le golfe de Guinée. Les marines régionales ont certes amélioré leur réponse aux vols en haute mer, mais les pirates, eux aussi, ont changé de tactique. D'après Oceans Beyond Piracy, une organisation qui lutte contre la piraterie, les enlèvements de marins se multiplient, notamment dans le volatile delta du Niger. Des prises d'otages qui sont menées dans l'espoir d'obtenir des rançons. Au total, 44 marins ont été enlevés dans le golfe de Guinée. C'est un changement par rapport aux années passées, puisque jusqu'alors, les pirates préféraient dépouiller les navires de leur cargaison et de leur carburant. Mais d'après Matthew Walje, principal auteur du rapport d'Oceans Beyond Piracy, les marines régionales ont amélioré leur capacité à répondre aux détournements de navires. De plus, les détournements étaient trop risqués, car trop longs à réaliser. Le temps que cela prend augmente les chances d'être attrapé. Les possibilités de succès sont ainsi réduites. L'enlèvement de marins est donc plus rapide et moins risqué. En tout, du début à la fin, cela prend plus de temps. Mais l'incident en lui-même est plus rapide et la probabilité de succès est plus élevée. Les prises d'otages, cependant, impliquent plus de violence. L'an dernier, 23 personnes ont été tuées dans des incidents de piraterie dans le golfe de Guinée. Valdier reconnaît que les marines régionales arrivent à mieux lutter contre la piraterie. En février dernier, les marines du Ghana, du Togo et du Nigeria ont retrouvé un navire au large de leur côte.
C'est la fin de cette édition présentée par John Lyndon et Jean-Roger Billon, mise à nom de Georges Léonard Seigneau, technique Jimmy Cook.